Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a in a lullaby.
Bonjour, c'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Je suis ravie de vous retrouver sur Fréquence 7, cette radio que j'adore, vous le savez. Alors, notre émission Il était une fois parle des contes et vous savez que cette année, je commence toutes les émissions par la question « Pourquoi faut-il raconter des histoires ?» On a une réponse de Nicole Belmont, voilà ce qu'elle dit. Elle dit que les contes merveilleux se présentent comme des récits de fiction. Et elle rappelle que tout le monde a en tête les formulettes d'introduction des conteurs et des conteuses qui ont des variantes très nombreuses et qui annoncent qu'ils vont nous raconter des mensonges. Par exemple, Paul Sébillot en Haute-Bretagne disait « Plus je vous dirai, plus je vous mentirai, je ne suis point payé pour vous dire la vérité. » On entend maintenant de nombreux conteurs qui ont repris cette variante pour annoncer leurs histoires. Ce mensonge, et c'est en des termes plus savants la fiction, c'est-à-dire une parole autre que la parole des échanges quotidiens, qui n'a pas de lien apparent avec la réalité. La formulette ouvre aux auditeurs un monde imaginaire. Le conte se déroulera sur une scène autre, comme le rêve. Elle autorise un laisser-aller, elle provoque une baisse de la censure. C'est qu'un conte, comme on dit, c'est qu'un rêve. Il s'ensuit que le récit peut alors faire passer des vérités profondes ou des rudes vérités, comme disait Françoise Dolto. Le conte utilise également une autre façon de dissimuler ces vérités. C'est d'utiliser un langage simple, presque ingénu, si bien qu'au moment historique où on commença à le collecter et à le transcrire, il parut être destiné un peu plus pour les enfants. C'est un malentendu qui n'est pas encore dissipé depuis 2 siècles, mais le conte dit autre chose que ce qu'il raconte. Il a un contenu manifeste et un contenu latent. Le contenu manifeste est loin d'être négligeable, précisément parce qu'il organise une narration. La mise en récit est une mise en ordre directionnelle. Elle donne une logique séquentielle, rassurante, elle assure un sens ou une direction. On va quelque part, on n'est plus dans la confusion, le désordre, l'embrouillement. Le héros ou l'héroïne, face au début du conte, à ce que Prop a appelé de manière heureuse un méfait ou un manque, suit son chemin. Parfois, il ne sait pas où il va. Et il réussit en fin de compte, ou en fin de compte, après des épreuves difficiles, à la réparation, non pas comme un retour à l'état intérieur, mais comme une progression de lui-même, une acquisition d'identité. Alors que l'auditeur, l'auditrice, par le jeu de l'identification, intègre la même démarche. Si vous voulez savoir un peu plus ce que dit Nicole Belmont sur le conte, je vous conseille la lecture magnifique du livre « Pourquoi faut-il raconter des histoires ?» dans la collection « Autrement ». Mais c'est pas tout de raconter et de dire pourquoi il faut raconter des histoires. Je sais que vous avez envie d'entendre des histoires. C'est pour ça que vous êtes là, non ? C'est pour ça que vous écoutez « Il était une fois » l'émission sur le conte. Le conte qui n'est pas que pour les enfants. Je propose aujourd'hui de vous raconter une histoire qui vient d'Italie, qui s'appelle « Le crabe enchanté ». Le grand écrivain italien Italo Calvino, vous connaissez peut-être certains de ses livres, a recueilli ce conte dans la région de Venise. Et là, vous en trouverez une adaptation. Comme on peut s'y attendre, tout se passe sur l'eau et sous l'eau. Vous êtes prêts ? Il était une fois une petite princesse capricieuse qui vivait dans un palais au bord de la mer. Le roi, son père, l'adorait et cédait à tous ses caprices. Comme elle aimait par-dessus tout la mer et les créatures de l'eau, il avait fait construire exprès pour elle un bassin au milieu du jardin. Elle passait là des heures à regarder nager les dorades, les mulets et à scintiller les coquillages. Ce qu'elle ne savait pas, ni le roi non plus, c'est que, par des couloirs souterrains, ce bassin communiquait avec la mer. Un jour, sur le rivage, au pied du palais, un pauvre pêcheur attrapa un crabe comme il n'en avait jamais vu. Un crabe énorme, d'un beau brun brillant, avec de grosses pinces qui s'agitaient. « Ah, je vais le proposer au roi, » dit-il, « et j'en tirerai un bon prix. »« Que veux-tu que je fasse de ça ?» s'exclama le roi. « va le vendre ailleurs. » Oh, je le veux, moi, je le veux pour mettre dans mon bassin, cria la princesse qui entrait à ce moment-là. Elle tapa du pied et le roi céda. Pensez si le pêcheur était content. Avec l'argent qu'il reçut, il courut acheter de la farine pour que sa femme lui fasse une bonne polenta, cette délicieuse bouillie de maïs. La princesse installa son crabe et il devint le roi du bassin. Les poissons pouvaient bien tourner en rond et les coquillages brillaient de plus belle. Elle n'avait Dieu que pour son crabe. Plus le temps s'écoulait, plus elle l'aimait. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est pourquoi il disparaissait tous les jours entre midi et 3 heures. Elle avait beau écarquiller les yeux et se creuser la cervelle, elle ne savait pas où passait ce crabe. À la fin, elle en eut assez et elle resta un moment à bouder dans sa chambre. Juste au moment où elle ouvrait la fenêtre donnant sur le rivage, un mendiant qui cheminait par là l'interpella. Il lui demandait la charité. Elle s'amusa à lui lancer des pièces qu'il attrapait au vol. Mais l'une d'elles tomba loin, dans les vagues. Le mendiant se jeta à l'eau pour la saisir. Alors, il fut happé par un tourbillon, entraîné dans un couloir obscur, et il s'enfonça sous la mer. Par chance, il savait nager. Il finit par déboucher dans une salle souterraine magnifique, étincelante d'or et de nacre, tapissée de rideaux de perles, et au centre se dressait une table chargée de plats appétissants. Il s'apprêtait à y goûter lorsqu'il entendit des tapotements qui se rapprochaient. Vite, il se cacha derrière un rideau et il vit apparaître un gros crabe avec une fée assise sur son dos. La fée descendit, toucha la carapace de sa baguette et il en sortit un beau jeune homme qui avait tout l'air d'un prince. Ils repoussèrent la carapace vide et se mirent à table. Ils mangèrent, ils burent, puis le jeune homme rentra dans sa carapace, la fée remonta sur son dos, ils plongèrent sous l'eau et ils disparurent. Notre mendiant, derrière son rideau, pendant ce temps réfléchissait. Comme tout le monde dans le pays, il avait entendu parler du crabe bien-aimé de la princesse qui disparaissait tous les après-midi et qu'elle cherchait partout en vain. Il s'agit sûrement de ce crabe-ci, se disait le mendiant. Si je parlais à la princesse de ce que j'ai vu, cette fois, c'est une bourse entière qu'elle me donnerait en récompense. De retour sur la terre ferme, le mendiant alla donc trouver la princesse. En échange d'une bourse bien garnie, il accepta de la conduire le lendemain sous la mer, par les chemins de l'eau, jusqu'à la salle merveilleuse. La princesse savait nager, elle le suivit. À peine était-il arrivé dans la salle à manger sous-marine et caché derrière un rideau de perles, que le crabe arrivait avec la fée. Tout se déroula comme la veille. Pendant que le beau jeune homme déjeunait avec sa compagne, la princesse, écartant les rangées de perles, elle dévorait le prince des yeux. Elle qui l'avait aimé sous sa forme animale, l'aimait 1000 fois plus encore sous sa forme humaine. La princesse était conquise. Une idée alors traversa sa jolie tête. Malgré le mendiant qui essayait de l'en empêcher, elle se faufila hors de sa cachette et se glissa sans être vue dans la carapace vide, abandonnée dans un coin. Aussi, quand un peu plus tard, le prince eut achevé son repas et regagné sa carapace, il trouva la belle blottie contre lui. « Que fais-tu là ? » chuchota-t-il tout en actionnant vigoureusement ses pinces, car il devait reconduire la fée de la mer avant de retourner dans son bassin. « Je ne sais pas, je t'ai suivi, je me doutais que tu n'étais pas un vrai crabe. Je suis un prince auquel la fée a jeté un mauvais sort. Oh, je t'en délivrerai, dis-moi ce qu'il faut faire. »« Ce qu'il faut faire ? C'est dangereux. M'aimes-tu assez pour le tenter ? Ah, je t'aime bien plus encore que tu ne le crois. Alors écoute, il faudra que tu joues du violon, debout sur un récif, au bord de l'eau. La fée surgira aussitôt du fond de la mer, elle adore la musique. Quand tu t'arrêteras, elle te demandera de jouer encore. Il faudra que tu acceptes à une condition, qu'elle te donne la fleur qui orne sa chevelure. Cette fleur, c'est ma vie à moi. Dès qu'elle sera en ta possession, je serai délivrée du mauvais sort et je redeviendrai prince à jamais. Mais si la fée refuse de me donner la fleur, elle ne refusera pas, elle adore la musique. Alors je sais ce qu'il me reste à faire. » Dès que le crabe fut revenu dans le bassin, la princesse sortit de la carapace et courut à la salle du conseil où se trouvait le roi au milieu de ses ministres. « Roi, roi, mon cher père, je veux apprendre la musique. Je veux apprendre à jouer du violon. Donne-moi un maître, donne-moi un violon, tout de suite, » lui dit-elle sans reprendre haleine. « Ah bon ?» répondit le roi. Il était surpris mais rassuré pour une fois que sa fille lui fasse une demande raisonnable. En effet, il convient à la fille bien élevée d'un roi de connaître la musique. Au bout de 3 semaines, la princesse déclara « Maintenant, je sais jouer. J'aimerais donner un concert sur… »«
Bonne idée !» interrompit le roi.
« Sur un récif au bord de la mer. »«
Sur un récif au bord de la mer? Pour que tu tombes à l'eau? Non, non et non !» protesta le roi.
Pourtant, 3 jours plus tard, la princesse accordait son violon debout sur un récif. Et sur 8 petits écueils se tenaient ces 8 demoiselles d'honneur, toutes vêtues de blanc. Au loin, très loin, dans la rade, les vaisseaux de la marine montaient la garde, par ordre du roi. Pour ne pas encourir la colère de sa fille, il ne devait se manifester qu'en cas d'extrême danger. La princesse n'eut pas plutôt commencé à jouer que la fée sortit des flots.
« Oh, comme tu joues bien! Quel beau son! Je t'en prie, continue pour moi !»«
Je veux bien, » dit la princesse. « À une condition.
Que vous me donniez la fleur que vous avez dans les cheveux, elle est si belle. Si vous adorez la musique, moi j'aime les fleurs à la folie. »«
La fleur, oui, mais joue d'abord. »
Quand la princesse eut fini son concert, la fée cria en la lui lançant « Tiens, voici ta fleur !» Et elle la lança le plus loin qu'elle put dans la mer. Mais la princesse n'hésita pas. Elle plongea et se mit à nager de toutes ses forces vers le large.
« Princesse, princesse, ne vous éloignez pas !»«
Au secours !» clamèrent les 8 demoiselles d'honneur en agitant leurs blanches écharpes. Quant à l'amiral de la flotte à tout hasard, il commanda à ses vaisseaux de mettre à la voile pour se rapprocher, pas trop près toutefois, car il savait que la princesse était bonne nageuse et craignait sa colère, mais quand même assez proche au cas où il interviendrait. Pendant ce temps, la fleur, flottant au gré des flots, s'éloignait de plus en plus du rivage, et la princesse se demandait si elle parviendrait à l'atteindre. Elle nageait moins vite à présent, elle s'épuisait. Enfin, une vague plus grosse que les autres souleva la fleur et la déposa dans sa main. La princesse avait la fleur, mais elle était loin de la côte. Pour revenir, il lui fallait nager encore longtemps. Soudain, elle sentit quelque chose passer sous ses pieds, et elle entendit une voix. « Ne crains rien, ma bien-aimée, je vais t'aider à regagner ton palais. Tu m'as sauvé la vie t'appartient désormais. » C'était le prince crabe. Naturellement, il nageait comme un poisson et la princesse était légère. En la soulevant au-dessus des flots, il ne mit pas longtemps à la ramener au rivage, tout en lui murmurant des douceurs. « Demain, je reviendrai demander ta main à ton père. D'ici là, je t'en supplie, pas un mot de notre aventure à personne et surtout pas au roi. »
« Ah, papa, comme je me suis bien amusée !» dit simplement la princesse en reprenant pied sur le sol, tandis que le prince disparaissait au fond de l'eau et que les vaisseaux royaux dont personne n'avait eu besoin s'en retournaient vers le port en gonflant leurs voiles majestueuses. Le lendemain, le prince, à la tête d'un somptueux cortège, vint faire au roi sa demande officielle. Celui-ci, fort étonné, envoya chercher sa fille. Elle accourut. Se jeta dans les bras du jeune homme. « C'est mon crabe, c'est mon prince, c'est lui que je veux pour époux, » dit-elle en guise d'explication. Le pauvre roi ne comprenait rien à ce nouveau caprice. Les jeunes gens lui expliquèrent tout, le suppliant d'accepter leur mariage. Le roi était un peu vexé de n'avoir rien deviné et que sa flotte royale n'ait pas servi. Mais bien sûr, il céda. Si belle, mariée et heureuse, devint moins capricieuse. La princesse, l'histoire ne le dit pas. Quelle belle histoire de prince et de princesse. Vous avez vu comme cette princesse est courageuse et c'est elle qui sauve le prince. C'est pas très souvent ça, hein, n'est-ce pas ?
Eh bien, ça arrive dans les contes. Ça, ceci dit, pour tous les jeunes conteurs, les jeunes conteuses qui pensent que les princesses sont toujours sauvées par les princes dans les contes, non. Il y a plein de contes dans lesquels les princesses sont extraordinaires, où les petites filles sont très courageuses. Donc, si ce sont les histoires que vous aimez, ne vous gênez pas pour les chercher. Connaissez-vous, par exemple, les 7 corbeaux? Ah, voilà une histoire traditionnelle dans laquelle la petite sœur va sauver ses 7 frères grâce à son courage et elle donne même un de ses petits doigts pour les sauver. Donc il y a plein de contes comme ça. Donc vous voyez que moi qui aime les contes, je vous raconte souvent des histoires où ce sont les princesses qui sont sauvées par les princes. Mais mon côté féministe vous raconte aussi des histoires comme celle-là où ce sont les princesses qui sauvent les princes. Mais voilà, c'est déjà le temps de nous quitter. C'est vite passé, hein, vraiment. Mais on se retrouve de toute façon le samedi et le mercredi à 16h. Et d'ici nos retrouvailles, vous le savez, essayez de vous raconter des histoires.